C'est-à-dire qu'effectivement, la maladie d'Alzheimer n'est pas évidente au départ, d'autant plus qu'elle commence par la mort de mon père dans la rue d'une crise cardiaque, et il a presque 99 ans, 98. Je dis presque parce qu'il rêvait de faire le 100. Il aimait la montagne, c'était un ingénieur et il adorait la montagne, donc il voulait faire le 100. Donc ce n'est pas par l'Alzheimer qu'on commence, c'est par une crise cardiaque et la mort. Et la morgue et tout. Et ceci dit, la maladie d'Alzheimer est totalement présente et de façon très concrète dans le livre, pas forcément au début, mais parce que par les symptômes, le diagnostic, les suites, enfin, et même le traitement, parce qu'il a eu un traitement d'Aricept. Bon, ça, on en reparlera plus tard. Parce que moi, je voudrais aussi dire que Géraldine dit quelquefois, je ne sais pas si vous l'avez dit ici, qu'il s'agit en même temps, sinon d'un témoignage sur la maladie d'Alzheimer. Je crois en fait effectivement que ça en est, même s'il est plutôt dilué dans le livre que complètement braqué dessus, mais que c'est un témoignage sur une relation père-fille. Or, je crois moi que ce n'est pas un témoignage. C'est un travail sur une relation père-fille, c'est une analyse, une recherche, une observation, une façon de creuser, et qui va même jusqu'à inviter dans cette réflexion, dans ce dialogue, dans ces contacts rêvés, Shakespeare et le roi Lear. Parce que...
Collez bien votre micro pour qu'on vous entende.
En fait, c'est un livre littéraire. Vous venez de dire roman. L'éditrice et moi, on a beaucoup hésité. Effectivement, il y a une part de la gratuité du roman et de son ambition à aller loin, à aller large surtout, et profond, et en même temps, des éléments complètement dont je n'ai rien inventé autour de la maladie de mon père, qui m'a énormément frappée. Il y a eu 4 ans de cohabitation. Enfin, nous habitions tous les deux Paris. J'habite la République et lui dans le 16e, près du Trocadéro, et un métro nous reliait, et le téléphone, on s'est téléphoné plusieurs fois par jour, surtout lui qui m'appelait, et on s'est vu presque tous les jours pendant 4 ans.
On va reparler justement de cette maladie et du diagnostic qui a été posé. Le jour où le diagnostic a été posé, votre papa n'était pas présent.
Si.
Il était juste à côté.
C'est-à-dire que le diagnostic même, il faut prendre toute l'histoire du diagnostic. C'est-à-dire que c'est mon père, parce que ce qu'il avait de particulier, enfin, il y a d'autres gens comme ça, et je le comprends très très bien, c'est qu'il était curieux de ce qui lui arrivait. Il ne comprenait pas. Il a eu cette phrase absolument superbe, c'est comme si j'habitais ce vieux bonhomme. Il ne se sentait pas dans sa peau, il ne se sentait pas, il ne se reconnaissait pas. Où il m'a dit, un jour, il m'a dit, ça y est, j'ai plus de jambes. Mais en fait, d'ailleurs, pour moi, le livre est beaucoup parti de ses expressions, de sa façon à lui de se raconter, d'essayer des images, des tournures, des comparaisons. Donc, je ne m'occupais pas. Oui, j'ai commencé d'abord à notre relativement vie commune. Enfin, j'aime pas la notion d'accompagnement, mais c'est quand même un accompagnement. Un jour où il m'a dit je vais chez un cardiologue, j'ai rendez-vous avec mon cardiologue, il me tenait au courant de sa vie courante bien sûr, quand on se voyait, et tout d'un coup j'ai osé dire est-ce que je peux t'accompagner, est-ce que tu veux que je t'accompagne, et alors là lui m'a répondu, j'étais sûre que j'allais être envoyée au plot, hein, que j'avais pas à me mêler de sa vie. Et il m'a répondu, je n'osais pas te le demander. Donc, à partir de ce jour-là, j'ai participé à sa vie assez régulièrement. C'était particulièrement facile pour moi, dans la mesure où j'avais cessé d'être enseignante. Je faisais de la culture générale en classe de BTS pour ne plus me consacrer qu'à la peinture et l'écriture avec l'accord de mon mari. Parce que là, tout d'un coup, bon...
Et mais... comment s'est passé alors le diagnostic?
Alors le diagnostic, le rendez-vous, voilà. Vous avez raison, je viens de le me rappeler. Hein. C'est papa, mais c'est mon père qui avait pris le rendez-vous. Tout seul. Il y a eu un article dans Le Monde du professeur Forêt parlant de l'Alzheimer. Et mon père a écrit au professeur Forêt pour en savoir plus, pour comprendre si ça correspondait un peu à ce que lui, il éprouvait, une difficulté à gérer ses papiers, des embrouilles à mini, des flous dans la tête, quelque chose qui lui pressait sur les yeux et, et sur le front. Enfin, il était toujours en train de faire ça.
Collez bien votre micro, Béatrice, comme ça on vous entendra bien.
Ça va ? Bon. Et donc, il a écrit au professeur Forêt et il a écrit au crayon sa lettre, parce qu'il n'arrivait plus, disait-il, à bien maîtriser son écriture. Donc, il fallait qu'il gomme. Ça était très vexé. Enfin, très vexé, mais il le sait. Et on lui a répondu de l'hôpital Broca qu'on lui donnait un rendez-vous. Là, j'y suis allée avec lui. Et il a passé des examens. Il y a eu toute une journée dans laquelle il a passé des examens. Je ne l'ai pas vu. On avait rendez-vous ensuite, le soir, avec le docteur Inouï. En réalité, c'était le docteur Hamon qui est devenu le docteur Hanon. Hanon qui est devenu le professeur Hanon.
Et le jour alors du diagnostic.
Bon, mais c'est ça le jour du diagnostic. Donc on avait rendez-vous avec le professeur. Et le professeur a dit, bon ben c'est effectivement des problèmes, blablabla. Et puis tout d'un coup il a dit, puis un médicament, la Ricept. Et monsieur, voulez-vous bien s'il vous plaît sortir? Je voudrais dire un mot à votre fille. Et papa est sorti. Et là, c'est l'histoire du diagnostic dont on parlait tout à l'heure. C'est à moi qu'il a dit, votre père est atteint d'Alzheimer. Et ça m'a beaucoup troublée. Quand papa est rentré, mon père est rentré et qu'on s'est retrouvés dans la rue, quand on est rentré ensemble en prenant une bière au passage, il m'a dit je ne vais pas te demander ce qu'il t'a dit, et j'ai consciemment fait un mensonge. J'ai dit ben oui papa, il m'a dit que il fallait que tu prennes ton médicament pour la tête, tu sais, la Ricept, il fallait que tu le prennes très régulièrement, même s'il y avait des côtés désagréables et que c'était très important. Donc, je n'ai pas osé dire. Et puis, quelques mois plus tard, parce qu'il y avait quelqu'un qui était envoyé à la mairie pour voir comment ça allait chez les vieilles personnes. Enfin, il avait, je ne sais pas, 95, 16 ans, et qui lui disait, alors, comment vivez-vous, monsieur? Comment vous vous coupez les ongles? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vient faire le ménage chez vous, etc. Et papa lui parle du flou qu'il a de sa tête, qui ne saisit pas très très bien les choses. Et à ce moment-là, il se tourne vers moi. Oui, et la jeune femme qui est là en face de lui lui dit à quoi attribuez-vous ce malaise que vous avez? Et il se tourne vers moi le plus naturellement possible en me disant, est-ce que tu sais, toi, d'où ça vient? Et bon, et je dis Alzheimer. Il le prend très très bien. Quelque part, il s'en doutait, sans doute. Et puis ensuite, plusieurs fois, dans le cours de l'existence courante, quand il avait un problème, qu'il avait des vertiges, des choses comme ça, il disait, ah ben oui, c'est à monsieur Alzheimer que je le dois. Parce que finalement, c'était assez drôle, la vie avec lui. Parce que ça l'étonnait, il était curieux, il était intéressé. Je crois qu'il a été heureux de me retrouver. Moi, je l'ai été heureuse de le découvrir. Il avait été un père strict. J'ai trois frères. Une sœur, une fille, ce n'était pas très important. À ma naissance, il aurait dit d'ailleurs à maman, une fille, ça ne compte pas. Après, ça n'a pas été tout à fait aussi net, mais quand même... J'existais pas beaucoup pour lui, et puis là, tout d'un coup, Ben, on était en contact tous les jours.
Donc, dans le fond, la maladie vous a rapproché entre vous et votre papa. Comment vous l'avez accompagné pendant les 4 ans de sa maladie ?
Je ne dis pas tellement accompagné, on a un peu vécu ensemble. Pas ensemble, enfin, j'étais chez moi avec mon mari, mes enfants étaient grands. Puis j'avais mon atelier, mais je le voyais presque quand même. Je l'accompagnais chez les médecins. Je faisais souvent ses courses. Il avait gardé beaucoup d'autonomie. Hein. Seulement, à la fin, ça a évolué de plus en plus. Il avait des visions. Il en était très fier. Il me disait, tiens, j'ai des visions comme toi. On peut écrire avec ça. Mais il y avait vraiment des choses qu'il fabulait. Enfin, il était sûr qu'une de ses cousines lui avait apporté des petites pommes de terre nouvelles et qu'il allait les trouver dans sa cuisine. Il arrive, c'est lui qui me raconte après coup, il n'y avait rien. Et ça, il perdait effectivement de plus en plus la tête. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un moment que j'ai beaucoup aimé, beaucoup souffert, beaucoup. Ce qui m'a beaucoup marqué, qui était, voilà, parce qu'ici, ce qu'on a sauté, c'est le titre, Rayon au papillon d'or. C'est Rayon au papillon d'or. Ça fait partie du délire du roi Lear de Shakespeare quand il est lui, le roi Lear, considéré comme fou et qu'il est seul dans la lande, menacé par des gens qui vont l'arrêter. Et que sa fille, celle de ses filles qu'il a déshéritée et qu'il a désavouée, dont il ne veut plus, est là. En plus, elle a épousé le roi de France, elle a quitté la France, et elle est là. Il n'en revient pas, et il est fou de bonheur. Voilà. Et il lui dit, viens, allons-nous en prison. Allons en prison, ça n'a aucune importance, pas la peine de te débattre. Et puis on vivra, il a un très beau délire amoureux, d'amour platonique pour elle. Et puis après, ben, ils se font enfermer.
Qu'est-ce que vous retenez de ces 4 ans, finalement, de maladie de votre papa ? Tout à l'heure, enfin, vous disiez justement que ça vous a rapproché parce qu'il a eu une éducation, ou en tout cas, il était assez strict. Vous vouliez lire un petit passage rapidement, Béatrice ?
Oui, j'ai compris que vous étiez très passée. Mais... bon, ce que je voulais dire, c'est que moi, par exemple, il y a des tas de choses qui m'ont beaucoup touchée. Mais tout à fait à la fin, quelques jours avant sa mort, papa est. En fait, j'aime pas dire papa. Je peux dire papa quand je parle, mais quand j'écris, je ne veux pas posséder mon père. C'est pas mon père, c'est mon père, mais c'est pas papa. C'est pas bon. Toujours est-il que il est en train de se battre avec ses papiers. Il se demande combien il doit à Lisette qui fait son ménage tous les jours. Et puis je lui dis, à condition que je puisse lire, et si je te disais, papa, que n'étant plus une bonne machine à calculer, tu es peut-être devenu autre chose, plus sensible, autrui, plus proche. Et il m'a répondu, ce qui est invraisemblable, parce que j'avais déjà tenu ce raisonnement et il m'a envoyé blé, gentiment d'ailleurs, il m'a dit, ce que tu dis là me plaît. J'ai de la chance d'avoir une fille qui sait voir ça. Voilà. Et c'est ça ce qui s'est dépassé. Et le professeur, tout à l'heure, parlait de sympathie. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est de sympathie et d'empathie. Excusez-moi, j'ai peut-être un Alzheimer. Et pourtant, c'est pas... Bon. En tout cas, je suis trop émue. Je ne sais pas parler en public, j'aime écrire, je n'aime pas parler. Par contre, j'aime écouter, et mon père a dû beaucoup apprécier que j'aime écouter, et lui aimait parler. Merci.